Alors le but de cet enseignement du matin, c'est de nous guider un peu sur notre chemin de délivrance. Alors pardon si j'enfonce des portes ouvertes, si vous connaissez déjà des choses. Bon, vous me direz à la fin. Franchement, tu peux nous parler d'autre chose. Mais voilà, le but c'est quand même de bien baliser le chemin, parce que le risque que nous avons lorsque nous demandons la délivrance, c'est d'arriver passivement et d'attendre des prières qui marchent. Si c'est ça votre attente, on vous dit au revoir tout de suite. Vous n'êtes pas à la bonne adresse. Voilà. Donc, je vous rappelle les quelques étapes qu'on a vues ensemble, qui sont indispensables sur un chemin de délivrance. La première étape, et toutes ces étapes se vivent plus ou moins à la fois, évidemment. La première étape, c'est en fait la conversion. La conversion. Si par exemple je cultive en permanence des pensées négatives, c'est même pas la peine de demander une prière de délivrance. Si par exemple je vis dans le péché, on vit tous dans le péché, mais j'ai pas envie de changer, par exemple je suis adultère, et pas envie de changer là-dessus, ou vous voyez, il y a parfois des habitudes mauvaises, et puis on a décidé que c'était bien. Bon, évidemment, même pas la peine de demander la délivrance. Voilà. Ok. Là, l'autre étape, mais qui est absolument mais capitale, c'est le pardon. Est-ce que nous avons pardonné aux personnes qui nous ont fait souffrir dans la vie? Vous me direz, oui, c'est fait. En fait, le pardon, c'est comme, si vous voulez, une force qu'on accueille de Dieu. J'ai entendu des témoignages de pardon qui m'avaient bouleversé. Vous voyez, c'est des gens qui ont subi des massacres au Rwanda. Et qui ont pardonné, vous voyez, donc c'est impossible, humainement. Mais est-ce que au moins nous avons décidé de pardonner et de nous pardonner à nous-mêmes? Le pardon, on en a parlé déjà ici, et puis donc cette renonciation à nos comportements, on va dire, de péché. Il y a deux combats dans nos vies. Il y a le combat ordinaire et le combat extraordinaire. Peut-être avec le carême, on reparlera du combat ordinaire. Le combat ordinaire, vous voyez, c'est de renoncer à nous-mêmes dans le sens le vieil homme en nous. Vous voyez, Saint Paul, le vieil homme. Il y a une partie de nous-mêmes qui est mauvaise. Jésus dit, vous qui êtes mauvais, il le dit à ses apôtres, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel saura-t-il donner des bonnes choses à ses enfants? Alors, ce combat spirituel ordinaire, il est de tous les jours. On ne va pas dire, c'est bon, maintenant, je suis converti. Alors, on raconte le jour de notre conversion. Bon, et la question qu'on peut poser à la fin, c'est, et aujourd'hui, tu t'es converti? C'est quoi ta conversion aujourd'hui? Sainte Thérèse d'Avila qui disait, une journée sans combat est une journée perdue. Parce qu'en nous, il y a un vieil homme, une vieille femme, qui ne veut pas, rebelle, qui est contre l'obéissance, contre le partage, la pauvreté, et contre la chasteté, pas seulement au niveau sexuel. La chasteté, c'est la bonne distance à l'autre. Il n'y a pas qu'au niveau sexuel qu'on a des problèmes avec la chasteté. Souvent, on est dans l'emprise sur les autres. On a envie de les diriger, même par charité. Ça, c'est un manque de chasteté. Il y a quelque chose en nous qui est contre l'obéissance, la pauvreté, en tant que partage, et la chasteté. Il faut le savoir, et il faut en être conscient. Il y a des gens qui me disent, mon père, je ne me confesse pas parce que j'ai pas de péché. Ah bon? En général, je leur dis, bon, je vais vous aider à les trouver. Hein. Parce que, en fait, on est tous pareils. Jésus nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Qui ici prétend aimer comme Jésus, c'est-à-dire divinement? Yes. Donc on a besoin de se confesser tous les jours, comme Jean-Paul II. Notre confession, pardon Seigneur, parce que je n'aime pas comme toi. C'est notre péché fondamental. Mais on est un peu tordu encore sur certains domaines, et c'est bien de les identifier. Autrement, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler des étapes 4 et 5 de ce chemin de délivrance. Donc, quand on a fait vraiment un travail, enfin un travail de conversion, autrement dit, on a donné sa vie à Jésus. C'est ça la conversion. Nous donnons notre vie à Jésus. On ne va pas se servir de Dieu pour nos trucs. Seigneur, que ma volonté soit faite avec ton aide. Aide-moi, moi. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la conversion. Le pardon. La décision de réformer. Ces points de péché en nous. Bon, ça, c'est les trois étapes. Maintenant, on va voir aujourd'hui l'étape 4 et 5. L'étape 4, c'est en fait, quand on a fait tout ce travail-là, c'est prier pour la délivrance. Ça nous intéresse. Prier pour la délivrance. Et puis, la cinquième étape, c'est le but, c'est de recevoir la bénédiction. On n'est pas délivré pour vivre notre truc. On est délivré pour vivre en Dieu. D'accord ? Donc, si nous vidons, c'est pour être rempli. Voilà. Alors, quelques mots sur cette quatrième étape où on va, en fait, être établi dans l'autorité du Christ. Car si nous sommes baptisés, nous avons autorité. Oui. Nous recevons une autorité de Dieu contre les agents d'iniquité. Et nous pouvons dire, au nom de Jésus, je rejette, au nom de Jésus, je coupe, au nom de Jésus, je lis au pied de la croix. Il va falloir, si vous voulez, avoir un peu d'audace, parce que certaines personnes nous disent, mais non, il faut prier pour moi, etc. Non, c'est vous d'abord qui rentrez dans un combat. On n'est pas passif. Et c'est ça le message, un des messages que j'aimerais vous livrer ce matin. Nous avons autorité dès que nous sommes croyants. Vous trouvez ça dans la fin de l'Évangile selon saint Marc. Les signes qui accompagneront ceux qui sont croyants. Le premier signe, c'est « Il chasse les démons ». Alors, allez-y. Voilà. Alors, de quoi on va être libéré? Je vais quand même aller assez vite pour... vous avez bien compris qu'on est libéré des esprits mauvais. Saint Paul, aux Éphésiens, chapitre 6, nous dit que nous ne combattons pas contre des adversaires de sang et de chair, mais contre les puissances des airs. Donc notre combat, il est d'abord spirituel, et il est possible, parfois, de mettre des noms sur les esprits mauvais de notre combat ordinaire. Combat ordinaire, c'est le combat pour être avec Dieu toujours. Le combat extraordinaire, c'est si c'est plus fort que vous, et puis vous avez des moments d'infestation majeure. Mais la plupart d'entre nous, c'est le combat ordinaire. Et même si un combat extraordinaire, occupons-nous du combat ordinaire. Alors, on va mettre parfois des noms sur ces esprits qui nous embêtent et qui sont autour de nous, comme dit l'épître de saint Pierre qu'on lit au complice du mardi. Le démon est comme un lion rugissant qui rôde. Saint Augustin, il dit, il est en laisse. Et si on s'approche, il meurt. Bon. Alors, ces esprits mauvais qui désignent des péchés, ça peut être des esprits de superstition, de sacrilège, de malédiction, de blasphème, d'orgueil, de domination. Ça peut être des péchés de mensonge, des esprits de mensonge, d'hypocrisie, de médisance, de calomnie, de critique. Des esprits de paresse, des esprits de luxure, des esprits de vengeance, de haine, de rancune, de refus, de pardonner, de méchanceté, de convoitise, de jalousie, enfin bref, vous pouvez faire la liste des péchés. Parce que si nous tombons dans le péché, c'est ça qu'il faut bien comprendre, si nous tombons dans le péché, nous pactisons avec le démon. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait peur. Ben non, c'est une loi spirituelle. Et le péché, si c'était juste, ah, c'est pas bien ce que tu as fait. J'appelle pas ça un péché, j'appelle ça une faute morale. Le péché est séparation de Dieu. D'accord ? Est-ce que vous sentez la différence ? Jésus n'a pas dit soyez gentils, soyez polis, etc. Non. Il a dit aimez-vous comme. C'est-à-dire, il veut que nous vivions avec lui, en lui et par lui. C'est ce qu'on dit à la messe.
Amen.
Amen. Voilà. Alors, ça, c'est le projet de Dieu. Mais le projet du démon, c'est que nous vivions avec lui, par lui, en lui, enfin bref, voilà. Donc, à chaque fois que nous décidons, vous voyez, les sept péchés capitaux, de tomber là-dedans, ou alors c'est plus fort que nous, bon, eh bien, il y a un lien de péché. C'est-à-dire que nous risquons de retomber dans le même truc. C'est les addictions. Alors vous me direz, oui, mais les addictions, c'est psychologique. Vous avez raison. Il y a un côté psychologique à l'addiction. Si c'est l'alcool, la drogue, le sexe, tout ça, c'est un côté psychologique. On va compenser, je ne sais pas quelle angoisse, etc. Mais sachons que on pactise avec l'ennemi. Bon. Lorsqu'on avorte, on pactise avec le démon. Vous avez entendu je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps les témoignages chocs de Notre-Dame, Mère de la Lumière. NDML. Vous trouvez ça sur YouTube. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un témoignage choc d'un ancien sataniste qui s'appelle Anthony King. On avait déjà entendu son témoignage au congrès eucharistique en 2012 à la Sainte-Baume. C'est très intéressant parce qu'il a été très loin dans le satanisme, très fort. Et il raconte comment il s'est converti, il raconte comment l'avortement, c'était son but. Parce que c'est un sacrifice au démon. Ok ? Ben oui. Donc, à chaque fois qu'il y a des péchés et des péchés graves, où il y a finalement mort, la mort, la mise à mort, d'accord ? Eh bien, c'est un lien au démon. Ok ? Voilà. Donc, tous ces esprits de péché, c'est peut-être bien de les nommer. Si j'ai une addiction, dans le nom de Jésus, esprit d'addiction à, je renonce à toi et je te lie au pied de la croix, au nom de Jésus. Vous voyez, voilà. Vous savez, les esprits de mensonge, c'est, y a des gens qui parlent au nom du Padre Pio, de Saint Charbel, comme s'ils étaient habités par la Sainte Vierge. Maintenant, c'est plus moi qui parle, c'est la Sainte Vierge. Bouf. Ça, c'est les esprits, ce qu'on appelle les esprits guides. Soi-disant, c'est la Sainte Vierge qui parle. Et puis la personne, elle ne se rappelle même plus de ce qu'elle a dit. Non, ça, c'est démoniaque. Excusez-moi. Donc attention, tous les esprits de prodiges, etc. Alors, dans la prière de délivrance, on va demander aussi à Dieu de nous délivrer des emprises. Parfois, on est sous emprise. Alors, ça peut être une emprise, on va dire, non spirituelle, humaine. Je suis sous l'emprise de mon gourou. si j'en ai un. Je suis sous l'emprise de ma meilleure amie ou de mon meilleur ami. C'est lui ou c'est elle qui décide tout pour moi. Laisse-moi être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Bon, vous avez entendu ça. Ça, c'est l'emprise. On croit que c'est de l'amour, mais attendez, c'est pas de l'amour. Non. On appelle ça en grec philotia, un amour égocentrique, où il y a toujours un dominant et un dominé. Donc, on va renoncer à ce type de lien, au nom de Jésus. Et on va demander au Seigneur, au nom de Jésus, je coupe ce mauvais lien entre cette personne et moi. Ça, c'est l'emprise. Et puis, vous avez l'emprise, eh bien, où on a rajouté des rituels sataniques ou de sorcellerie, tout simplement. Donc, vous vous retrouvez avec des trucs pas possibles. OK. Donc, là aussi, que soit coupé au nom de Jésus le lien avec tel sorcier ou telle nébuleuse sorcière. Mais attention, on ne va pas être des parano. Hein. Parce que si vous allez voir le magnétiseur du coin, il va vous dire « Ah oui, c'est votre voisin. » N'allez pas voir les magnétiseurs, OK? Bon. Voilà. Il sera aussi nécessaire de couper les liens, de demander au Seigneur de couper les liens générationnels. Si nous avons, pour ça que la messe tout à l'heure sera importante, si dans nos générations, nous avons des gens qui sont tombés dans tel ou tel péché, ou qui ont été victimes, voilà, il sera important de couper ces liens de péché. D'accord? Parce que, ça va peut-être vous choquer, mais si j'ai un ancêtre qui a pactisé avec un démon, ça ne s'arrête pas à lui. Le démon a des droits sur plusieurs générations. Si, moi j'ai déjà vu ça avec les francs-maçons, hein, une famille que j'accompagne encore, mais, donc c'est le grand-père, attendez, donc je pars des enfants. Alors c'est le grand-père et arrière-grand-père dans la franc-maçonnerie. Je leur ai fait renoncer au nom de leur grand-père à la franc-maçonnerie. Je ne vous raconte pas les réactions. Bon, ça bougeait pendant la prière. Parce que ce démon de franc-maçonnerie, qui s'appelle Lucifer, hein, okay, on est d'accord, eh bien, avait des droits. Donc ça, c'est le côté générationnel. On va demander à Dieu de couper ces liens générationnels. Puis on se rend compte aussi, effectivement, que les démons peuvent lier des âmes. Alors, est-ce que ce sont des âmes damnées, des âmes dans le passage de la mort? Bon, ça, c'est un grand débat. Théologique, il n'est pas encore tranché. Mais il peut y avoir cette alliance. Donc, on demande au Seigneur aussi de visiter notre généalogie. Dernier point, ici, bon, si vous avez flirté avec les techniques énergétiques du style le Reiki, le magnétisme, ces trucs-là, eh bien, vous avez ouvert vos portes, des portes énergétiques, et donc ça veut dire que vous êtes poreux aux influences spirituelles qui nagent dans ce monde où nous sommes. D'accord ? Donc, on va demander à Dieu de refermer ses portes au nom de Jésus. Saint Hildegarde les appelait les roues énergétiques. Bon. Que soient refermées ses portes au nom de Jésus. Bien, et puis il faudra aussi, dans ce chemin de délivrance, il faudra parfois mener aussi une thérapie psychologique, parce que effectivement, nos traumatismes de vie sont des portes ouvertes aux démons. Donc, si nous ne voulons pas, absolument pas, avoir ce type d'approche, ça veut dire que nous attendons quelque chose de magique de la prière de délivrance. Donc, c'est dommage. Il faudra aussi passer éventuellement par cette étape d'une bonne psychothérapie, voir si on a un problème d'ordre psychiatrique, avoir un très bon suivi à ce niveau-là. J'ai accompagné une personne qui était en hôpital de jour, il y en a eu plusieurs, mais elle était très bien suivie. Donc, on ne peut pas dire « Ah, c'est psychologique ou c'est spirituel ». Bon, assez souvent, c'est les deux. Mais si on refuse de travailler sur le côté psychologique, si on refuse même de se convertir, pas la peine de demander la prière, est-ce qu'on est d'accord? J'espère que je me suis fait comprendre. Et puis, finalement, lorsqu'il y a traumatisme de vie, c'est le cas par exemple dans les abus, que ce soit au niveau sexuel, mais aussi au niveau des emprises, il faudra aussi donc ce chemin d'accompagnement, d'ordre psychologique, voire psycho-spirituel. Alors on ne mélange pas les domaines, mais quand même il y a des intersections de ces deux domaines. Et les retraites de pacification intérieure peuvent nous aider beaucoup. On appelait ça avant guérison intérieure, mais bon, vu l'ambiguïté des termes, on préfère dire libération intérieure. J'espère que vous en avez toutes fait une au moins. Au moins une dans sa vie. Hein. Donc le plus près d'ici qui font ce type de démarche, c'est la famille Saint-Joseph, près de Béziers, famille Saint-Joseph. Et ils appellent ça « Renaître de ses cendres ». On a des très bons retours, et puis on les connaît bien aussi. Voilà. Donc, à ne pas négliger. Voilà. Ça, c'est la première, la quatrième étape de libération. Ce que j'aimerais que nous retenions, c'est que nous avons une autorité dans le Seigneur. Et notamment pour... Alors, nous, notre expérience, elle englobe différents cas, mais le cas qui me revient à l'esprit, c'est des cas de sorcellerie. Bon, si vous êtes hypersensible, en plus, vous êtes une proie facile pour ceux qui ont des emprises. Eh bien... Dans ces cas-là, les personnes concernées, eh bien, effectivement, quand elles rentrent dans une prière de combat et d'autorité, ça va beaucoup mieux. Et ça peut suffire. Mais sinon, les exorcistes vont être épuisés. Mais, enfin, voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous avez autorité, prenez-la. Mais attention, cette autorité n'est pas magique. Vous avez d'autant plus autorité que vous avez la foi. Si vous n'avez pas la foi, ne vous lancez pas dans ce type de prière. Ça va vous revenir sur le nez comme un boomerang. Et c'est une prière de foi. Et avant de prier, on invoque le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on aime, nous, dans cet univers spirituel qui nous entoure ? Mais recouvert du sang de Jésus, nous risquons rien. Il y a des gens qui nous disent « Mais ça me fait peur, tout ça. » Attendez, c'est le démon qui a peur. Le démon, il a peur de celui qui est revêtu du Christ. Est-ce qu'on en a conscience? Mais simplement, revêtons-nous du Christ. Non, on ne peut pas être entre les deux, si vous voulez. Et ça, c'est notre combat ordinaire. Tous les jours, on va dire à Jésus, « Je t'appartiens, je suis à toi, ma vie, elle est à toi, fais de moi ce qui te plaira. » Prière d'abandon de Charles de Foucault. Mais c'est important, parce que sinon, on se trompe de registre. Vous n'êtes pas dans le registre du pouvoir. « J'ai des pouvoirs. » Et donc je vais dire à Dieu, fais ceci, il le fait. Ah ben non, on est tous justement des enfants de Dieu, si nous le voulons bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas orphelins. Et voilà. Ne négligeons pas, alors ça c'est les petits détails, mais importants, pour cette prière d'autorité, ne négligeons pas la confession régulière. Le plus souvent possible si vous êtes dans le combat, oui. Minimum une fois par mois, c'est ce que dit la Sainte Vierge à Médiévorier. Minimum une fois par mois, on se confesse. Mais vous avez déjà remarqué, j'espère, que quand vous vous confessez, vous allez mieux. Vous priez mieux, vous êtes moins finalement avec des tentations, de désespoir. Vous savez, parfois on traîne de grosses tristesses. Bon, le curé d'Ars disait, si un jour j'étais triste, j'irais me confesser. Bon, je vous propose le tuyau. Alors, la confession avec une réelle repentance, évidemment. C'était le père Manjacal qui nous parlait d'un homme qui se confesse. Bon, il n'avait pas tout dit, puis il n'avait pas confessé son péché d'adultère. Bon, donc voilà quoi. Qui est, que ce soit une confession honnête, avec une réelle repentance. Sinon, la confession n'est pas un truc magique. Vous dites vos péchés, puis hop. Non, c'est un acte de foi. Et on demande à Dieu de nous révéler notre péché. Si vous avez juste un truc à dire, très bien. Alors même, vous voyez, parfois, il y a des péchés de notre enfance qui reviennent. Ben ça, il faut le confesser. Il faut le confesser. Ah oui, même si c'est périmé, j'allais dire. Tout doit être mis dans la lumière de Dieu. Tout. Rien dans l'ombre. Vous connaissez l'histoire de Marino Restrepo. Il est de Bolivie. Non, c'est pas la Bolivie, mais. Colombie. Et puis il se fait prendre par les FARC un jour de Noël. Et. On lui dit le programme, on va d'abord te plumer, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, et puis ensuite, on va te tuer, ainsi que ta famille. Et puis, il était dans une grotte, dans la forêt vierge, avec les moustiques et tout, quoi. Et puis, il a cette expérience, pas de vie après la vie, parce qu'il dit non, il n'est pas mort, mais Jésus, il n'était pas croyant, hein. Mais ses sœurs priaient pour lui. Et. Tout d'un coup, vous avez la grotte qui disparaît et à la place, c'est de la lumière. Puis il voit le Christ et en même temps, il voit toute sa vie. Et ce qui l'a frappé quand il a vu toute sa vie, c'est qu'il n'a vu que les péchés de sa vie qu'il n'avait pas confessés. Les péchés qu'il avait confessés, il ne les a pas vus. C'était plus dans le film, si vous voulez. Puis après, il voit l'enfer. Le purgatoire et le ciel. Le ciel, ça a l'air pas mal. Non, mais je plaisante. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que à chaque péché, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un lien avec un démon. Si vous avez visité la cathédrale d'Albi, vous avez le jugement dernier. Enfin, sauf qu'ils ont explosé le Saint-Michel avec sa balance, et on voit d'un côté le ciel et puis de l'autre côté l'enfer. Puis l'enfer, c'est lié au péché principal de sa vie, quoi. Bon, mais le purgatoire aussi. Ok, la confession, demander pardon, et puis aussi vérifier que vous acceptez le plus possible la croix dans votre vie. Vous n'êtes pas des victimes. Ne soyons pas des victimes. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire son vieil homme, d'accord, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et si nous sommes finalement dans une attitude victimale, c'est que nous n'avons pas la foi, ni l'espérance, ni finalement la charité. C'est moi, moi, moi. Oh, pauvre de moi. Sauf que Jésus a dit, n'ayez pas peur de ce qui tue le corps. Mais pour rien faire pour l'âme. Ayez peur plutôt de celui qui va envoyer l'âme et le corps dans la géhenne. Et donc la stratégie de l'ennemi, c'est nous enlever la foi, l'espérance et la charité. Quand on nourrit une victimisation, il n'y a plus tout ça. Ça marche ? Voilà. Bon, on reviendra là-dessus une autre fois, parce que je vois que le temps passe. Peut-être la prochaine fois, on parlera du combat spirituel ordinaire. Alors, l'autre étape importante, qui sera la dernière étape, c'est l'objectif, c'est de recevoir la bénédiction. Recevoir la bénédiction sur nous-mêmes, la bénédiction de Dieu. Nous sommes faits pour la bénédiction, est-ce que nous y croyons ? Est-ce que nous croyons que Dieu a un plan de bénédiction pour nous ? Ben, en fait, pas toujours. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous nous trompons d'identité. Finalement, nous ne savons pas qui nous sommes. Est-ce que je suis le vieil homme qui dévie, qui n'est pas bien en permanence ou je ne sais pas quoi ? Ou est-ce que je suis l'homme nouveau, créé de nouveau ? Dieu fait toutes choses nouvelles en moi. Il y a une question identitaire. Qui suis-je ? Moi, j'aime pas les gens qui disent « c'est un menteur ». Enfin, j'aime pas les gens. J'aime pas l'expression « c'est un menteur ». Parce qu'une personne n'est pas menteuse. Elle fait des mensonges. C'est différent. Vous n'allez pas coller la personne à son péché ou à son défaut. Et quand vous vous regardez dans la glace, ne vous identifiez pas à votre défaut principal. Ou finalement, vous allez nourrir une déception sur vous-même. Ce que je suis ne correspond pas à ce que j'aurais voulu être. C'est triste. On va engranger une certaine tristesse. Alors, il y a une bonne nouvelle. 2 Corinthiens 5. Verset 17. « Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. » Vous y croyez ? Non, ne dites pas oui pour me faire plaisir. On n'y croit jamais assez. Et quelque part, on est vieillissant. Si on n'y croit pas, on est vieillissant. Que je dis à notre évêque, attention à cette église des soins palliatifs. On accompagne l'existant jusqu'à fermer la parenthèse. Ne soyons pas des vieux. Le monde nouveau, il est là. Et ça va dépendre de notre foi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai dit à Dieu, waouh, merci pour la vie, tu fais toutes choses nouvelles et j'accueille ta bénédiction, qu'elle coule sur moi et à travers moi sur tout ce que tu as mis dans mon cœur. Colossiens 3:3. Vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand on est en Dieu, la mort c'est du passé. Même si on devrait mourir demain. Vous connaissez cette histoire de Jean Bosco, quand il était, Jean Bosco, c'était un élève, Dominique Savio, pardon, c'était un élève de Jean Bosco. Et puis un jour, on dit aux élèves, bon, on vous annonce que vous allez mourir dans une heure, qu'est-ce que vous faites ? Alors il y en a un qui dit, je me mets en prière, l'autre qui dit, je vais me réconcilier avec un tel, etc. Et puis Dominique Savio, il dit, je continue à jouer dans la cour. Yes. Voilà. Ce que nous sommes est caché avec le Christ en Dieu. Et le vieil homme en nous Il est mort. Bon, on l'a déclaré mort. Sauf que... Ça, c'est notre combat spirituel. Ne dites jamais à quelqu'un « Ah, ben, il faut me prendre comme je suis. Hein. » Ben non. Parce que si on te prend comme tu es un enfant de Dieu. Donc, il n'y a aucun souci. On va te prendre comme tu es. Sauf que quand tu dis « Ah, il faut me prendre comme je suis, j'ai pas bon caractère, et tout », non, on se trompe. C'est pas toi, ton mauvais caractère. Parce que tu es revêtu de Christ. Et en lui, tu es une création nouvelle. Alors, ça c'est notre attitude. On se tourne vers. Ça c'est la conversion et c'est tous les jours. Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » Nous sommes tous enfants de Dieu. Quelle joie! Enfants de roi! Nous avons la dignité des enfants de roi. Waouh! Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous disait par la bouche du prophète Isaïe, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. » Laissons-nous nommer par Dieu. Vous vous rappelez cette rencontre extraordinaire entre Marie-Madeleine et le ressuscité. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, où est-ce que tu l'as mis? Elle parle à celui qu'elle croyait être le jardinier. Et Jésus dit, Marie, Marie, notre nom, nous l'avons reçu à notre baptême. C'est pas pour rien, parce que le nom dit notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. J'ai eu l'occasion d'être prof à un moment de ma vie en Afrique. Et les élèves, ils avaient deux noms. Il y avait Yann Doukwa, Yann Doubé, Yann Ben, bon, des mots dans la langue locale. Et puis il y avait Cécile, il y avait Jacques. C'était intéressant, deux noms. Il y avait le nom que la grande famille avait donné. Et il y avait le nom chrétien. Voilà. Alors ton vrai nom, c'est ton nom chrétien, qui se met devant ton nom profane. Voilà. Nous nous ouvrons à la présence de Dieu, comme ce que nous avons fait ce matin. Si vous voulez, si on est encore dans une démarche, la religion et moi, les rituels, j'aime pas aller à la messe, machin, enfin des trucs comme ça, on n'a rien compris, quoi. C'est vivre en Dieu. Pas seulement aller à la messe. Vivre en Dieu, aujourd'hui, maintenant. Si nous ne sommes pas en Dieu qui est lumière, nous sommes où? Eh bien, dans les ténèbres. Bon courage. Et dans les ténèbres, il y a un effet anesthésiant. Anesthésiant. C'est-à-dire que vous pensez que tout va bien pour vous, matérialisme, etc. Mais voyez le nombre quand même de suicides en France. Je n'ai pas les chiffres, non, mais c'est quand même assez impressionnant. Ça ne marche pas. Sans Dieu, ça ne marche pas. Et si vous dites, oui, oui, moi je rentre assez pour Dieu, je vais à la messe tous les dimanches, ou une fois par mois, bon. Waouh! Et le reste du temps? Ou alors vous dites, non, moi je fais bien ma prière le matin, le soir. Ok. Ça prend combien de temps ta prière? Vous écouterez ce témoignage d'Anthony King. Lui, quand il était sataniste, il passait combien de temps la nuit à invoquer Satan? Toutes les nuits, hein, d'accord? Toutes les nuits. C'est autour de 3h du matin. Je crois que c'était au moins une heure ou deux, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait l'ennemi? Il lançait des malédictions, surtout sur les femmes enceintes. Ouais. Après, quand il est devenu catholique, il a eu la grâce de voir Jésus dans l'Eucharistie. Waouh ! Il a dit à sa femme, tu vois ce que je vois? Elle ne voyait rien. Donc la première fois qu'il va à l'adoration en pleine nuit, il se dit, il n'y aura pas de place sur le parking. C'était en pleine nuit d'Annie. On s'est rendu compte, voir Jésus. Ben, en fait, il y avait toute la place sur le parking. Voilà. Alors nous, on a l'air bien ridicule avec notre messe du dimanche qui dure une heure et quart maximum. Sinon, vous cassez la gueule, pardon, au prêtre à la sortie. Vous vous rendez compte, le rôti dans le four, etc. Les enfants, c'est beaucoup trop. Bon. Non, mais arrêtons. On va vivre en Dieu. En Dieu. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais à Jérusalem, d'aller à la synagogue, de voir les pères de famille, parce qu'il y a un côté homme, un côté femme, la synagogue. Et les pères qui amenaient leurs enfants, leurs petits-enfants. Et je vous promets que ça durait plus d'une heure. Hein. Et à chaque sabbat, ils appellent ça le shabbat, vous avez la prière d'entrée en shabbat, d'accord, c'est le vendredi soir. Ensuite, le samedi matin, on va à la synagogue. Le samedi midi, on va à la synagogue. Le samedi soir, on va à la synagogue. D'accord ? Et puis, comme on n'a pas du tout envie que le sabbat s'arrête, ben, il y a ce qu'ils appellent les yeshivot, yeshiva, où on étudie, on retient la fiancée, les shabbat. Bon, moi je rêve de voir ça dans l'église catholique. Alors, c'était le cas de la petite Thérèse. La petite Thérèse, elle allait au vêpres du dimanche soir. Et elle disait, mais on veut pas que le dimanche s'arrête. Cette double présence de Dieu le dimanche, on veut pas que ça s'arrête. Ça, c'est la foi. Sinon, vous êtes dans le rituel. Oui, j'étais à la messe, j'ai eu ma messe. Puis mettez-moi la messe le samedi soir, ça prend moins de temps, ça dégage le dimanche. On n'a rien compris. Waouh! Jour consacré à Dieu, le dimanche, qu'est-ce que je fais le dimanche pour le consacrer à Dieu? Est-ce que je vis avec Dieu tout mon dimanche? Vous savez, c'est un commandement. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est pas tu iras à la messe le jour du Seigneur. Après, tu as fait ton devoir. Non! Il veut se donner. Il veut vivre avec toi. Il veut te rejoindre. Il veut te transformer. Jésus faisait ses miracles le jour consacré à Dieu. Hein. D'ailleurs, on lui en voulait. Travaille pas. Septième jour, on ne travaille pas. Et pourquoi il fait autant de miracles? Pour dire, mais Dieu est là et il est agissant. Alors on ne va pas s'en priver. Vous voyez la façon de vivre le dimanche. Moi, je connais une communauté, c'est une toute petite communauté de frères, qui s'appelle les frères serviteurs, ils sont à Paris. Et en fait, ce qui les a marqués, c'est la façon dont les juifs vivent le sabbat. Alors, ils se sont laissés inspirer pour vivre le dimanche. Alors, on rentre dans le dimanche par les vêpres du samedi soir. Et puis, il y a les prières du dimanche, puis il y a la prière de fin du dimanche, on sort du dimanche. Et en fait, bon, ils sont toujours en communauté, c'est une belle intuition. Je vous la livre. Parce qu'il s'agit de recevoir la bénédiction. Et si vous dites la bénédiction, j'ai mon rituel et ça suffit, vous êtes dans la magie blanche, excusez-moi. Vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle. C'est une démarche magique. J'ai eu ma messe. J'ai fait mon adoration. Waouh ! Est-ce que tu vis avec Dieu ? Est-ce que tu te laisses imprégner par la lumière de Dieu à chaque instant de ta vie? Ça, c'est la bénédiction. On va demander la bénédiction du Père. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, c'était un tout petit livre écrit par un Américain qui s'appelle Bruce Wilkinson. Et ça s'appelle la prière de Yabetz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La prière de Yabetz. Alors je vais vous lire ce qui est le texte de référence qui est dans la Bible, dans le premier livre des Chroniques, c'est pas du tout connu. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, c'est-à-dire dans la douleur, en disant « J'ai enfanté dans la détresse ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si vraiment tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu éloigneras de moi le malheur en sorte que ma détresse prenne fin. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors, première chose, ce Jabez, il a un nom pas possible. C'est un nom de malédiction. Il s'appelle douleur. Dans la douleur. Tu viens ici, dans la douleur? Imaginez ça toute une vie. Hein. Dans la douleur. Il est où, dans la douleur? Si vous répétez ça plusieurs fois par jour. Hein. Voilà. Donc, la malédiction. Un nom maudit. Moi, j'ai vu ça aussi en Afrique. Il y avait un élève qui s'appelait Liglig Ben. Ça veut dire « il n'y a plus d'argent ». Parce que ça veut dire « il n'y a pas d'argent pour faire venir les médecins ». Liglig Ben. Bon, trimballer ça toute sa vie, bonjour quoi. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si vraiment tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi, tu éloigneras de moi le malheur, en sorte que ma détresse prenne fin. » Alors, dans ce petit livre, vous pourrez retrouver ça sur Internet, la prière de Jabez. Il demande, lui, la bénédiction. Il ose demander la bénédiction. Dieu est père. Je suis son enfant. Et Dieu a dit, par la bouche de Jésus, « Demandez et il vous sera donné. » Est-ce que nous pensons à demander la bénédiction? Alors allons-y. Demandez la bénédiction. Si tu me bénis, vraiment, tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Dans une autre tradition, c'est « tu agrandiras ma tente », ce lieu intérieur qui est souvent trop étroit. Qu'est-ce qu'on est à l'étroit en nous-mêmes? On a besoin, vous savez, déjà physiquement, si nous prenons l'air, les poumons, ils ont besoin d'être un peu élargis, vous voyez. Notre âme, c'est pareil. Que nous respirons Dieu. Alors, au début, quand on essaie de commencer l'oraison, la prière, c'est un peu poussif. Hein ? J'arrive pas à prier, mon Père. C'est en priant qu'on va arriver à prier. Parce que la prière, c'est on aspire la présence de Dieu dans le silence du cœur. Alors, Dieu va agrandir notre territoire. Si tu me bénis, tu vas agrandir ma tente. Nous recevons cette bénédiction et ta main sera avec moi. Deuxième bénédiction. Tu vas agrandir mon espace intérieur, mon cœur. Et ta main sera avec moi. Notre Père, il est toujours là. Cette image que donne, vous savez, cette parabole de la petite Thérèse, du docteur Habil. Le docteur Habil, il voit que son petit enfant, il va se casser la figure, il risque de se casser, de se casser vraiment, s'il marche avec ses seuls moyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va devant et il enlève les grosses pierres, les obstacles. Voilà ce que fait Dieu pour nous. Vous me direz, non, c'est pas toujours vrai, parce qu'on a des fois des épreuves, et c'est pas possible. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dors? Bon. On me dit parfois, de toute façon, le Seigneur, il n'entend pas mes prières. Bon. Dieu a le désir de nous bénir. Sauf que, est-ce que nous demandons la bénédiction? Ça, c'est la question. Nous appelons la bénédiction. Alors, si on appelle la bénédiction que pour moi, et moi, et moi, et moi, évidemment, peut-être qu'il y aura une petite pédagogie de Dieu, de dire, écoute, on va peut-être bénir les autres aussi, tu crois pas? Bon. Voilà, et ça, c'est important. Si nous bénissons, si nous demandons la bénédiction, c'est que nous-mêmes, nous désirons vivre dans la bénédiction. On ne va pas dire à Dieu, bénis-moi, moi, moi, moi. Il y a l'écho, bénis-moi. Et puis, nous, on ne le bénit jamais, et on ne bénit jamais les autres. Comment voulez-vous recevoir la bénédiction si vous ne transmettez pas cette bénédiction? C'est comme si vous demandez à Dieu, aime-moi, s'il te plaît. Papa, est-ce que tu m'aimes? Il doit craquer quand on lui dit ça. Sauf que, si vous avez décidé d'aimer personne, comment voulez-vous recevoir l'amour de Dieu? C'est logique, non? Parce que l'amour en nous, comme la bénédiction, c'est comme un circuit. Un circuit ouvert. Dans la Sainte Trinité, le circuit est ouvert. Le Père bénit le Fils, et le Fils bénit le Père, et ça ne s'arrête jamais. Mais vous imaginez que le Fils dise « Ah, je vais en profiter un petit peu pour moi, mon mort. » Il n'y aura plus de Trinité. Saint-Esprit. Alors, si nous avons compris ça, oui, ouvrons-nous et demandons la bénédiction, mais vérifions que nous voulons bien vivre dans la bénédiction de Dieu, ce que nous avons fait tout à l'heure en chantant, même si vous avez peut-être des épreuves. Oui, on a tous des épreuves. Mais nous avons quand même chanté la bénédiction du Seigneur. Au lieu de nous recroqueviller sur nos épreuves en victime. Et nous décidons de bénir les autres. Oui, même ceux qui nous font du mal. On en parlera la prochaine fois. Pourquoi? Parce que, en fait, on se trompe souvent hein, dans la bénédiction. On dit non, tu vas me rendre compte, je ne vais quand même pas bénir ceux qui me font du mal, parce que les bénir, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Non, pas du tout. La bénédiction, c'est qu'on demande à Dieu de les visiter. Et si Dieu le visite ou me visite, alors il y a une conversion. Autrement dit, si la bénédiction, c'est le feu du ciel, quand le feu du ciel descend sur vous, sur nous, nous sommes comme le buisson ardent. Nous brûlons d'amour et de vérité. Ça ne s'arrête pas. Parce qu'on veut vivre avec Dieu. Et si nous appelons la bénédiction sur ceux qui ne sont pas en Dieu, enfin, on croit qu'ils ne sont pas en Dieu, peut-être qu'ils le sont, un petit peu, partiellement, un peu beaucoup, comme, un peu comme nous, on n'est pas complètement en Dieu, bon, on est en chemin. Eh bien, c'est comme si nous appelons le feu sur des brindilles, pour que ça brûle. C'est quand même pas mal que ça brûle. Parce qu'il n'y a qu'un seul ennemi, on l'a dit, c'est celui qui n'est pas avec Dieu. Et si vous bénissez, c'est que toutes ces personnes vont être avec Dieu. Bénis des personnes. On a beaucoup parlé il n'y a pas très longtemps. Bénis des personnes. Ok. Mais justement, parce que quand on bénit les personnes, on appelle le feu du ciel sur eux. C'est un feu d'amour. Et quand on brûle de ce feu, alors, waouh! Tout est consumé, ce qui est mauvais. On est fait pour être jeté dans le feu, vous voyez. Alors, on va s'arrêter là. Le temps passe vite avec vous. qu'il y a encore beaucoup de choses à partager. Donc ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est vous avez autorité parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez autorité, alors prenez autorité. Attention, en Christ. Devenez pas des spécialistes charismatiques. Moi, j'ai ce charisme-là et j'y vais. Et puis, vous jouez au gourou, quoi. Pas ça. Dans votre vie, vous avez autorité pour rejeter les esprits mauvais, pour que soient coupées les mauvaises influences. Arrêtez votre télé aussi, de temps en temps, et vos écrans. Parce que ça, c'est l'esprit du monde. Sauf si vous avez super bien sélectionné, etc. Mais quand même, l'esprit du monde. Ok. Donc, prenons autorité, l'autorité que nous avons, utilisons-la. Et puis, deux, accueillons notre identité d'enfant de Dieu. Ça, c'est la vraie. C'est la vraie. Soyons vraiment nous-mêmes. Et si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire qu'il y a quand même un feu, un petit feu, un moyen feu, ou un grand feu, qui peut allumer le feu autour de nous par la bénédiction. Bénissons, bénissons, bénissons. Et la bénédiction, elle a besoin d'être accueillie, demandons-la, pour être transmise. Bénissons beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là.